Après Le Monde selon Monsanto et Notre Poison quotidien, la journaliste et réalisatrice d'enquête documentaire Marie-Monique Robin repart autour du monde pour tenter de répondre à une question : comment nourrir les gens ? L'agroécologie comme réponse face aux dangers sanitaires et environnementaux que représentent les pesticides. Pascal Marcaggi a rencontré Marie-Monique Robin qui nous en dit plus sur ce nouveau documentaire en cours de réalisation.
Marie-Monique Robin, on vous connaît par Le Monde, selon Monsanto, et puis aussi Notre Poison quotidien qui a permis au grand public de mieux comprendre des choses qu'il soupçonnait peut-être, mais ne saisissait pas vraiment. Aujourd'hui, est-ce que vous inversez votre démarche avec comment on nourrit les gens ?
C'est-à-dire que je viens de faire 5 films et 2 livres qui ont décrit précisément tout le système de l'agro-industrie et les conséquences pour l'environnement, pour la biodiversité, pour la santé des consommateurs ou des usagers. C'est vrai que partout où je fais des projections, des débats, il y a beaucoup de monde. Régulièrement, on me dit « mais est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides ?» Alors ça, c'est la question qu'on me pose. Et puis c'est vrai que c'est aussi une affirmation d'un autre côté de l'industrie chimique qui affirme qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides. Moi, j'étais récemment sur un plateau de France 2, mots croisés. En face de moi, j'avais le maire qui est le ministre de l'Agriculture et Jean-René Buisson qui est le patron de la Fédération de l'agroalimentaire. Et voilà, ils ont affirmé tous les deux qu'on ne pourrait pas nourrir le monde sans pesticides. Alors j'ai voulu répondre à cette question. Sérieusement, voilà, donc je refais le tour du monde, j'ai déjà commencé, je vais dans une dizaine de pays, je vais rencontrer des scientifiques partout, des agriculteurs, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut évidemment nourrir le monde sans pesticides, et même on pourrait nourrir le monde réellement, parce qu'actuellement il faut quand même rappeler qu'on ne nourrit pas le monde, il y a plus d'un milliard de personnes qui sont en état de malnutrition ou qui meurent de faim, donc il y a un problème quelque part, les pesticides n'ont pas nourri le monde déjà, ça c'est une chose évidente, donc pour l'instant ce que je peux déjà dire c'est que j'arrive du Mexique, des États-Unis, et bien... aussi bien les scientifiques que j'ai rencontrés que les agriculteurs montrent qu'on peut faire autrement et que ça serait bien plus efficace.
Alors vous dites que vous revenez du Mexique qui est aujourd'hui touché par la sécheresse, le Mexique qui a autorisé les OGM, le Mexique qui est un pays à moitié pauvre et une partie est extrêmement riche. Comment est-ce que vous y prenez quand vous enquêtez Mexique-États-Unis ?
Alors le Mexique n'a pas autorisé les OGM pour l'instant. Justement, ils ont interdit la culture. C'est ce que je racontais dans Le Monde selon Monsanto, toujours, malgré les pressions énormes, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, pour préserver normalement la biodiversité du maïs avec toutes les variétés locales, parce que le Mexique est le centre d'origine du maïs. Alors, en revanche, ils importent énormément de maïs transgénique, de Monsanto, etc., depuis le fameux accord de libre-échange d'Amérique du Nord, qui fait que le Mexique est obligé d'ouvrir ses frontières au nom du libre-échange. Et j'ai vu à quel point c'était catastrophique pour les petits paysans et l'agriculture familiale. On estime qu'il y a 3 millions de petits paysans qui ont dû quitter l'agriculture et puis partir, vous savez, dans des conditions terribles, comme sans papier aux États-Unis, etc. Donc voilà. Alors, en même temps, au Mexique, il y a des petits îlots dans le pays de résistance extrêmement bien organisés où on pratique l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, faut bien comprendre ce que c'est. On pense beaucoup à l'agriculture biologique, mais l'agroécologie, c'est plus large que l'agriculture biologique. L'agroécologie, c'est un système de production agricole, évidemment, qui n'utilise pas d'intrants chimiques, qui réintroduit de la biodiversité sur les fermes. C'est-à-dire que c'est fini les monocultures, vous voyez, comme on a chez nous, on fait du blé de manière intensive dans la Beauce, et puis des cochons en batterie en Bretagne. Non, l'agroécologie, c'est donc un modèle agricole qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, donc qui, évidemment, respecte les ressources locales, en eau, la fertilité des sols, n'utilise pas d'intrants chimiques, réintroduit de la biodiversité, justement, pour assurer la pérennité des fermes, qui sont à hauteur d'homme. C'est fini les 500 000 hectares, parce que 500 000 hectares, il n'y a personne qui peut s'en occuper de manière à le maintenir dans le cadre d'un développement durable. Développement durable, ça veut dire qu'on n'épuise pas les sols et que les générations futures pourront continuer à exploiter la terre, ce qui n'est pas le cas avec le modèle actuel. On épuise les sols, on les détruit même. Ça marchera très bien avec des rendements très élevés en pratiquant une méthode qui date des Aztèques, en fait, qui est un système qu'on appelle le système Milpa. C'est-à-dire qu'on va semer le maïs en même temps que les haricots et que les citrouilles. En même temps, on met 3 graines différentes et chacune apporte quelque chose, vous voyez. Alors, les haricots vont s'accrocher le long des plants de maïs et les haricots, c'est une légumineuse, ça capte l'azote de l'air et donc ça nourrit le maïs, vous voyez. Et les citrouilles recouvrent le sol avec leur, vous savez, ça court partout, les citrouilles, et c'est une protection contre l'érosion, etc. Donc, un système absolument fantastique qui marcherait très bien. Donc voilà, moi, mon but, c'est de vérifier ce qu'on peut faire autrement. La réponse est oui, mais le montrer sérieusement. Donc, je vais voir beaucoup de scientifiques et des paysans dans environ une dizaine de pays. Là, je pars la semaine prochaine en Afrique parce que l'agroécologie, contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'industrie chimique, ce n'est pas retourner à l'âge de pierre, c'est au contraire s'appuyer sur les savoir-faire locaux des paysans et donc tenir compte des réalités locales et en collaboration avec la science. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut des programmes de recherche pour développer les meilleurs outils bio, respectueux de l'environnement, mais adaptés aux réalités locales.
En fait, dans notre poison quotidien, ce que vous nous avez montré, c'est pas que la chimie a voulu faire mieux de façon bien intentionnée pour nourrir la planète, mais en se moquant éperdument de l'être humain.
Ah oui, mais de toute façon, le but de l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas de nourrir le monde, hein, c'est de se faire du bénéfice. Hein. Et puis, donc ça, et indépendamment, tous leurs produits sont des produits toxiques. Moi, ce que je démontre, c'est que l'industrie chimique sait parfaitement que ces produits sont toxiques et que donc il y aura des malades, qu'il y aura des morts, mais continue de les maintenir sur le marché. Ça, je le dis clairement, hein, c'est des comportements criminels. Hein. Je l'ai dit partout et je le redis, dans la mesure où, quand on sait qu'un produit est toxique, qu'il va avoir des dégâts sur l'environnement et sur la santé des hommes, et qu'on continue de le maintenir sur le marché, même, y compris en mentant, en cachant les données, en faisant des pressions énormes, c'est un crime, c'est tout. On devrait traîner les responsables de ces entreprises devant les tribunaux. Malheureusement, on ne peut pas le faire actuellement avec le système qu'on a. Hein. Au mieux, on peut, si les victimes s'organisent, ce qui est très, très, très difficile, obtenir des dédommagements aux civils, vous savez, mais on ne peut pas traîner devant les tribunaux, donc au pénal, hein, les responsables des entreprises. Et tant que ce sera comme ça, eh bien, ça sera l'impunité organisée et elles continueront, évidemment. Donc maintenant, il est question de montrer, est-ce qu'on peut sortir de ce système, d'augmenter, donc est-ce qu'on peut nourrir le monde? Et moi, là, j'arrive des États-Unis, j'ai vu des scientifiques qui m'ont dit, on a fait des études, il n'y a aucun problème, on peut nourrir 12 milliards de personnes sans augmenter les surfaces de culture actuelles, mais en revenant sur un modèle que j'ai décrit avant, hein, c'est-à-dire respectueux de l'environnement, etc., qui utilise plus de main-d'œuvre aussi, parce que et ça, c'est plutôt bien, parce que finalement, c'est du travail aussi, hein, mais avec des produits de qualité et des rendements qui sont parfois supérieurs. Alors ça, c'est un autre mensonge. Moi-même, j'ai été très surprise. Eh bien, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. C'est carrément faux. C'est un mensonge. C'est même le contraire. Il y a plusieurs pays du monde où, quand on passe à l'agriculture agroécologique, on obtient des rendements trois fois supérieurs à ceux qu'on obtenait avec les produits chimiques. Voyez. Alors, sans parler des revenus qui sont bien évidemment supérieurs, parce que tous ces paysans qui pratiquent cette agriculture ont évidemment beaucoup moins de charges, s'en sortent beaucoup mieux d'un point de vue des revenus. Donc, c'est vraiment c'est intéressant parce que c'est beaucoup de mensonges, là encore.
Qu'est-ce que vous allez nous montrer de l'Afrique dans comment on nourrit les gens?
Je vais montrer que je pars dans plusieurs pays, là, Malawi, Kenya, il y a des initiatives à grande échelle qui montrent qu'en plantant des arbres, par exemple, l'agroforesterie, au milieu des champs de maïs, on peut tripler les rendements sans aucun apport d'engrais chimiques, vous voyez, par exemple. Donc, il y a plein d'expériences comme ça partout. Enfin, c'est même pas que des expériences, c'est des pratiques, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas des petites expériences, micro-expériences, que j'ai fait attention à ne pas tomber dans, justement, la micro-expérience pour que je vois très bien l'industrie chimique disant « Ah oui, mais c'est sympa, mais c'est des petits bricolages et c'est pas avec ça qu'on va nourrir le monde, hein, vous voyez. » Donc, j'ai essayé de trouver des histoires, il y en a beaucoup, heureusement, qui impliquent de nombreux paysans et qui ont montré que ça marche, quoi, voilà.
Il y a l'agriculture, il y a l'eau potable aussi, il y a le bétail.
L'agroécologie, c'est aussi un système très simple, hein, un principe de base. On ne peut pas avoir plus d'animaux sur la ferme qu'on ne peut nourrir soi-même. Déjà avec ça, c'est un principe. Le système qu'on a actuellement en France avec, encore une fois, les élevages intensifs de bétail ou porc, par exemple, vous savez tout ce que ça veut dire en termes de pollution, etc. Et puis santé des animaux, et donc du coup santé des consommateurs, hein, parce que tout ça est lié, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de rapport entre maltraiter les animaux, ça n'a pas de conséquences sur eux. Bien sûr que ça en a. On est tous dans le même bateau, et on a tendance à l'oublier, on a tout morcelé, on considère tout comme de la marchandise, des commodities, comme on dit en anglais. Hein. Donc non, dans l'agroécologie, on n'a pas plus d'animaux qu'on ne peut nourrir, ce qui permet évidemment, on les respecte davantage évidemment aussi. Hein. Et c'est donc tout un autre rapport, mais qu'on devrait retrouver en toute urgence.
Quand vous enquêtez comme vous le faites, est-ce que vous subissez des pressions? Comment est-ce que vous parvenez à aller voir les scientifiques? Et même ces initiatives positives, est-ce qu'elles subissent des pressions?
Alors pour ce film, pour une fois, c'est assez facile. Enfin, parce qu'évidemment, tous les gens que je vais voir, ils sont contents que je vienne, en fait. Et comme je suis finalement très connu, c'est intéressant de voir que partout, je prends contact en ce moment. Là, récemment, j'ai appelé le Japon et mon interlocuteur m'a dit « Ah, c'est vous, venez au Japon, formidable, formidable, venez. » Bon, ça, c'est vraiment bien. Et pour une fois, j'ai pas besoin de convaincre. Parce que, au contraire, je dirais, tout le monde est ravi de me recevoir, etc. Donc, c'est plus facile que les films d'avant. Il fallait que je passe déploie beaucoup d'énergie pour convaincre les interlocuteurs de parler. Alors après, je sais que l'industrie chimique est déjà sur les starting blocks. Là, j'ai vu qu'ils ont commencé à mettre des papiers en ligne. Parce que comme j'ai un site internet où j'ai annoncé ce prochain film, hein, donc en plus, c'est un film où je fais appel à des souscriptions, vous savez, pour 10% du budget va être financé par des gens qui préachètent le DVD, ce qui me donne une indépendance totale par rapport aux banques, ce qui est quand même très très bien, et qui crée des réseaux, vous voyez. Donc c'est un préachat de DVD, c'est 30 euros, vous voyez, c'est pas très cher, mais ça me permet, moi, d'être totalement indépendante. Alors, j'ai mis tout ça en ligne, et donc du coup, tout le monde le sait. y compris mes détracteurs, qui ont commencé donc à dire ah, elle va faire un film sur l'agroécologie, elle va nous dire qu'on peut faire ce. Oui, on peut, oui, mais tout ça, c'est n'importe quoi, c'est des petites initiatives. Ils ont commencé à se préparer parce que je pense que finalement, ça les gênera encore plus, si vraiment. Parce que j'ai pas fini là, hein. Je suis dans 3 pays, il m'en reste encore 9. De montrer qu'on peut faire autrement, vraiment, avec des témoignages sérieux, des expériences de terrain sérieuses, ça les gêne beaucoup parce que leur propagande, c'est systématiquement de dire on ne pourra pas. C'est une affirmation gratuite, vous verrez, je vais pas tout révéler ce que j'ai découvert. Hein. C'est vraiment une affirmation gratuite qui repose sur rien. C'est un mensonge, c'est de la propagande.
Pour l'instant, on est dans l'intoxication. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Sous-entendu, on l'entend pas encore, mais nous sommes trop nombreux. C'est le voisin qui est en supplément, pas nous, hein, bien sûr. Et donc, c'est incontournable, il faut manger des pesticides.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Oui, bien sûr. Et malheureusement, je pense que le problème, c'est justement les pesticides qui menacent véritablement. Alors d'abord, il faut savoir que, de manière générale, les pesticides reposent sur le pétrole, hein, en particulier les engrais. Et comme vous savez, ça va pas être une ressource éternelle. On commence à en prendre conscience. Donc, baser la production d'aliments sur une ressource en voie de disparition, ça paraît absolument absurde. Surtout qu'il y a des alternatives qui marchent, qui ne reposent pas sur le pétrole. Ça, c'est une première chose. En plus, comme on le sait, les pesticides, tout ce système qui va avec, que j'ai longuement décrit dans tous mes films précédents et mes livres, conduisent à l'épuisement des sols. Les sols sont morts. Au Mexique, par exemple, où je suis allé, ils ont réintroduit le système Milpa dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, parce que, un constat, les sols étaient morts. On leur avait vendu pendant 40 ans des pesticides en leur disant faites des monocultures de maïs, c'est ça l'avenir. Sols morts. En France, les sols sont morts. Hein. Aux États-Unis, n'en parlons pas, hein, c'est des secteurs entiers. Et on sait qu'on arrive à un top. D'ailleurs, les rendements dans ce modèle agricole sont arrivés à un top et ont tendance à baisser maintenant. Hein, et donc, on est dans un processus de dégradation générale. Donc, sans parler des ressources en eau, parce que c'est des modèles qui consomment énormément d'eau, évidemment. Alors, vous savez que c'est pareil, l'eau est quand même un enjeu énorme. La destruction de la biodiversité, les impacts sanitaires, les impacts sur l'environnement, enfin, tout ça, c'est un coût, mais absolument monumental. D'ailleurs, j'ai récemment interviewé à Bruxelles les auteurs d'un rapport qui a été fait pour le Parlement européen, où c'est très intéressant, ils ont additionné tous les coûts réels du modèle agro-industriel, en tenant compte de tout ce que je viens de décrire, ce que ça coûte pour dépolluer les eaux, les paysans malades, etc. Et ils sont arrivés à la conclusion, là, ça vraiment absolument incroyable. Ils disent que si on interdisait les pesticides en Europe, on économiserait 28 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez, un petit peu, on est carrément, quand je dis qu'on est dans le mensonge permanent avec les pesticides, c'est absolument inouï. C'est vrai aussi pour toute la production chimique en général. Quand il y a des effets induits sur l'environnement, ben c'est à la société de payer les intoxications de l'eau, enfin de l'air et tout. Alors que si on demandait aux entreprises d'emblée d'inclure ça dans leur mode, je veux dire, ça changerait tout. Hein, parce que si on dit c'est vous qui payez maintenant, hein, c'est vous qui payez les dégâts que vous causez, ben c'est le pollueur-payeur, le principe du pollueur-payeur. Alors on y va un peu dans ce sens, mais on est encore loin d'avoir les outils pour condamner les entreprises qui ne respectent pas.
Est-ce qu'il est exagéré de dire qu'on est dans une guerre, même si elle est silencieuse, et qu'il y a une forme de résistance qui est en train de s'organiser?
Oui, moi je vois, alors ça c'est la bonne nouvelle, hein. Vous verrez dans le prochain film, il y a partout des gens qui font autrement et ça marche, etc. Et qui essaient de résister à ce modèle. Bon, cela dit, je suis aussi convaincue, et ça c'est assez récent, que l'urgence est telle de réagir vite, que ma question c'est est-ce qu'on va le faire assez vite, quoi, voilà.
L'urgence environnementale?
À tout point de vue, la crise énergétique, on sait, la crise du climat, la crise sanitaire, la crise de la biodiversité, toutes ces crises qui sont liées, hein. Crise financière, évidemment, qui sont liées à un modèle capitaliste d'exploitation des ressources de la planète, hein. Et des hommes, parce que maintenant les hommes sont devenus aussi, je veux dire, à la limite, c'est comme on disait, que des choses. Hein.
C'est une matière première pas chère.
Une matière première pas chère, voilà, et qui va être de moins en moins chère parce qu'il y aura tellement, il va y avoir tellement de migrants qui vont partir à cause des catastrophes naturelles, rien pour parler de celle-ci. On annonce vous savez, des hordes, parce que c'est ça, hein, des gens qui vont fuir, des régions d'inondation, etc. Donc ces gens, pour se vivre, seront prêts à tout, et voilà. Il y a une urgence absolue à réagir très vite, et quand je dis réagir très vite, c'est vraiment très vite, c'est pas pendant 300 ans, c'est pour pour sauver la planète avant la fin de ce siècle, hein, et ça, j'en suis vraiment convaincue. L'urgence est vraiment énorme, et ma question, c'est est-ce qu'on va être assez rapide, assez efficace pour arriver à déboulonner cette machine à broyer qui est le capitalisme international, avec tout ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire ce mode de production, hein, basé sur le profit, quel que soit le coût, complètement suicidaire.
Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse l'arrêter, cette espèce de machine?
Je pense que l'information, c'est très important. C'est pour ça que je continue de faire mon métier. Je le vois, hein, très souvent, il y a des gens qui... C'est carrément des conversions, comme ils disent. C'est étonnant. Hein. Des gens qui viennent me voir en disant « On a vu ce film, on a vu votre film. Ça nous a bouleversés et on a tout changé du jour au lendemain. » Alors ça, c'est des choses, voilà, qui arrivent. Parce qu'à un moment, c'était mûr, quoi, hein, faut croire. Et puis, ça fait des taches d'huile. Donc, il y a partout, hein, des gens qui se rendent compte que ça ne peut pas durer comme ça. Mais bon, l'information est très importante. L'urgence est telle, encore une fois, que j'espère que ça ne sera pas trop tard. Hein.
Vous pouvez souscrire à l'achat du DVD « Comment nourrir les gens » sur www.m2rfilm.com.